Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à l'Iran. Deux semaines après l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions visant le régime de Téhéran, les sanctions les plus dures décidées par les États-Unis suite au retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien qui vise les secteurs énergétiques et financiers. Quel impact ces sanctions vont-elles avoir sur l'économie iranienne? Que peut faire l'Union européenne, globalement hostile à ces sanctions, elle qui, avec la Chine et la Russie, continue de porter à bout de bras l'accord de 2015? Quelles répercussions sur le régime iranien? Très fragilisé, Hassan Rouhani va-t-il pouvoir aller au bout de son mandat? L'objectif des Américains est un changement de régime à Téhéran. Regard sur les rapports de force qui prévalent aujourd'hui en Iran et la stratégie des autorités pour amortir le choc des sanctions. Nos invités, Azadeh Kian, professeur de sociologie politique à l'université Paris Diderot, Paris 7 et chercheur au CNRS, bonjour.
Bonjour.
François Nicoulot, ancien ambassadeur de France à Téhéran, analyste de politique internationale et auteur du blog À Contre-Courant, bonjour.
Bonjour.
Et Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, bonjour.
Oui, bonjour.
L'essentiel des sanctions qui sont appliquées depuis le 5 novembre dernier concerne les secteurs pétroliers et financiers. Que dire de leur impact sur l'économie iranienne, sachant par ailleurs que 8 pays devraient bénéficier de dérogations? Thierry Coville.
Alors, l'impact se fait déjà sentir depuis près d'un an, depuis que Donald Trump a menacé de sortir de l'accord. Sur le marché noir, on va dire, le dollar s'est apprécié de près de 300% par rapport au rial. Et ça, c'est parce que les gens ont eu peur, si vous voulez. Ils ont vu qu'il y avait des menaces, ils ont cru que l'inflation allait accélérer, donc ils ont commencé à acheter de l'or, des terrains et des devises pour se protéger contre ce qui allait arriver. Et donc, mécaniquement, ça a conduit à une dépréciation de effondrement, on va dire, de la monnaie iranienne. Et donc, comme tout ce qui est importé devient plus cher, l'inflation commence à accélérer, alors que les sanctions n'ont pas été appliquées. Ce qui laisse penser que, on va dire, il y a deux scénarios possibles. Donc l'inflation maintenant atteint 20%, officiellement, peut-être un peu plus en réalité, alors qu'elle était à 9%, 10% il y a quelques mois.
Oui, le chiffre est même de 29,6% oui. Pour l'année 2018.
Sans doute, ce serait logique. Par exemple, ouais. On est à 20%, alors que l'année iranienne n'est pas complètement terminée, donc ça devrait aller peut-être, sans doute, vers 25, 30% pour l'année iranienne, là, qui se termine en mars de l'année prochaine. Par contre, il y a plusieurs scénarios possibles. Maintenant qu'ils ont commencé à être appliqués, c'est là qu'on va voir la réalité. Le pire avait été anticipé. Finalement, le plus gros choc a été encaissé par l'économie iranienne et ça va stabiliser. Ou bien ça va continuer à se dégrader. Donc c'est là où c'est assez dangereux. En tout cas, ce qui est clair, c'est que il y a plusieurs scénarios possibles. Scénario pas trop catastrophique, l'Iran ne perd que 25% de ses exportations pétrolières, mais même l'inflation va accélérer à 20-30% et il va y avoir une baisse de la croissance et plus de chômage. Un scénario encore pire où l'Iran, par exemple, n'exporte que la moitié de son pétrole ou même moins. Alors là, on pourrait avoir une inflation qui augmente à, je sais pas, moins 40-50% et encore une récession encore plus forte. Donc, on va dire les différents scénarios, c'est entre le mauvais et encore plus mauvais actuellement.
Alors, pour ce qui est de la baisse de la croissance, je vais vous passer la parole à Azadeh Kian. Le Fonds monétaire international, selon son dernier rapport publié début octobre, évoquant la détérioration de l'économie iranienne, une économie qui devrait se contracter de moins 1,5% cette année et 3,6% en 2019, alors que l'Iran avait enregistré en 2017 une croissance de 3,7%.
Ça montre un peu l'état de l'économie iranienne. Alors, ce qui est étonnant, c'est que on entend des sons de cloche très différents de la part des autorités iraniennes, de la part même des membres du gouvernement, parce qu'il y en a qui effectivement tirent la sonnette d'alarme, comme Zarif, le ministre des Affaires étrangères, qui incite donc les autorités iraniennes à se soumettre aux demandes de l'Europe, à savoir de promulguer des lois contre le blanchiment d'argent, par exemple. Et il y a d'autres qui disent que le pire est derrière nous. Pour ce qui concerne les Iraniens ou la population, en tout cas ce qu'on peut voir et entendre, effectivement, comme disait Thierry Coville, c'est beaucoup d'inquiétude et on voit que, par exemple, étant donné que la monnaie iranienne a beaucoup perdu de sa valeur, il y a un surinvestissement dans l'achat des terres, des maisons, des appartements, c'est-à-dire la construction en réalité, et les gens continuent à acheter l'euro, le dollar. Mais paradoxalement, la valeur de dollar a baissé un peu par rapport à rial, d'une part. D'autre part, l'Iran est aussi, vous n'êtes pas sans savoir, un pays gazier, il n'y a pas que le pétrole. Et avec le Qatar, contrairement à l'Arabie Saoudite, l'Iran peut avoir cette carte en main, étant donné aussi le gazoduc entre l'Iran et l'Inde, qui n'est pas encore opérationnel, mais qui peut l'être à la fois pour emmener le gaz au Pakistan et en Inde. Donc l'Iran a aussi des atouts, mais bien évidemment, très très fragilisée du fait aussi de la dépendance de plus en plus grande de l'économie iranienne aux importations. Mmh. Et donc, de ce fait, vous voyez que si l'Inde refuse d'envoyer son riz à l'Iran ou si les États-Unis refusent d'envoyer du blé, à ce moment-là, la population iranienne risque même la famine. Et les récents propos de John Bolton qui disait on va accélérer l'étouffement de l'Iran, eh bien, laisse entendre, en tout cas à certains, que la famine des Iraniens n'est pas loin. Donc, effectivement, il n'y a pas de scénario, disons, optimiste, sauf si l'Europe obtient ce qu'il demande aux Iraniens et, de ce fait, accélère les moyens, y compris pour la transaction bancaire, oui, afin que l'Iran puisse quand même s'en sortir tant bien que mal de cette situation. Mais c'est à voir.
Alors, plusieurs choses par rapport à ce que vient de dire Azadeh Khan, donc John Bolton, qui est le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, qui effectivement cette semaine s'est engagé à exercer ce qu'il a qualifié de pression maximum sur l'Iran. Et puis la relation avec le Qatar, François Nicolau, hein, on a bien vu une intensification des liens entre l'Iran et le Qatar, mm-hmm, suite à l'embargo dont le Qatar est victime sur décision de l'Arabie Saoudite.
Oui,
on est là dans un grand jeu.
Pour revenir sur un point, d'abord sur Bolton, qui est quand même un personnage assez étonnant, hein, qui est donc quelqu'un qui est auprès de Donald Trump, donc tient le dossier iranien. Bolton est bien connu, hein, c'est un fou furieux, il faut quand même bien le dire. Il était connu déjà au début des années 2000, où il faisait pression sur les Européens pour que précisément ils ne fassent aucune concession à l'Iran. Hein. Bolton est le personnage qui est apparu à de nombreuses reprises dans les meetings des Moudjahidines du peuple, vous savez, ce mouvement d'opposition violente, mmh, hein, au régime, et il a touché quand même d'importants revenus, hein, ça s'évalue en centaines de milliers de dollars. Bon, voilà pour Monsieur Bolton. Alors, passons maintenant au fond des choses. Enfin, ce qui est certain, ces sanctions, elles sont efficaces. Il s'agit effectivement de faire souffrir la population. Ça, c'est très clair. La population iranienne va souffrir. Quelques personnes vont s'enrichir, hein, s'enrichir beaucoup. On a déjà connu ça, c'est un scénario qu'on a vécu dans les années 2010-2015. Les sanctions ont été très efficaces pour faire souffrir la population, ça a très bien marché. Est-ce qu'elles ont atteint le but qui leur était fixé à l'époque, qui était d'arrêter le programme nucléaire iranien ? Non, malgré toutes les difficultés, le gouvernement iranien a continué à développer son programme nucléaire. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé les Américains à la table de négociation, parce que, comme le disait John Kerry à l'époque, donc le ministre des Affaires étrangères, disons, ces sanctions, c'est très bien, ça fait mal aux Iraniens, mais si on continue comme ça, ils vont quand même finir par arriver au seuil de la bombe. Enfin, on a n'arrivent pas à arrêter leur programme nucléaire. Et là, on se retrouve un peu dans la même situation. Les sanctions sont efficaces pour faire souffrir la population. Est-ce qu'elles vont atteindre le but que se fixe le gouvernement américain, c'est-à-dire amener les Iraniens à la table de négociation pour les obliger à accepter toute une série de choses qui sont en fait inacceptables, hein, qui sont très très clairement inacceptables pour le régime tel qu'il est. Et s'ils devaient accepter tout ce que leur demandent les Américains, ce ne serait plus la République islamique, hein, ça serait autre chose. Donc, finalement, c'est un changement de régime que recherchent les Américains. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Ça, c'est quand même plus compliqué, ça paraît plus incertain.
Alors, on reviendra sur la question de l'accord et les exigences américaines avec vous, François Nicolau. On reste en Iran. Je voudrais comprendre le renforcement de ces sanctions. Est-ce que il peut conduire à une aggravation des troubles intérieurs ? On a vu à la fin 2017, début 2018, des manifestations, notamment à Meshed, qui est le fief du président Rouhani, et dans d'autres métropoles du pays, avec des gens qui scandaient « mort au guide, mort au régime ». Ces développements récents, avec l'intensification des sanctions, Thierry Coville, est-ce que ils peuvent influer sur des manifestations, sur une révolte populaire, puisqu'on disait bien, et François Nicolau le rappelait, que c'était la population iranienne qui était la plus impactée par ces sanctions.
Alors, je voulais simplement, avant d'aborder la question, c'est vrai que c'est un peu le discours américain qui consiste à dire non, mais les problèmes économiques qu'il y a en Iran actuellement, c'est pas nous, ouais, c'est des problèmes internes en Iran. faut être bien clair là-dessus. Il y a des problèmes économiques en Iran, indépendamment des sanctions. Il y a un chômage élevé, hein, parce que, par exemple, il y a des tendances démographiques qui font qu'à peu près il y a 900 000 jeunes qui arrivent avec un diplôme universitaire. L'économie iranienne, qui est dominée par le secteur public à 80%, n'a pas les moyens de créer des emplois pour ces jeunes qualifiés. Deuxième problème qu'il y a en Iran, la corruption. Il y a un sentiment de la population que les institutions publiques, système fiscal, surtout le système juridique, ne font pas leur travail et travaillent simplement pour quelques-uns. Donc il y a des vrais problèmes économiques en Iran. Par contre, ce qui est faux de dire de la part des Américains, c'est que depuis qu'ils ont mis, je viens d'en parler, c'est par hasard la monnaie iranienne elle s'est effondrée depuis un an. Comme par hasard, c'est depuis que les Américains ont commencé. Donc ce qui se passe actuellement, l'aggravation des problèmes, c'est complètement la faute des sanctions américaines, avec le calcul qui est, si vous voulez, dans ces cas-là, c'est bien connu, on aggrave les problèmes. Donc les problèmes, effectivement, leur objectif, c'est que les problèmes deviennent atteindre un niveau tel que la population n'ait plus le choix, sorte dans la rue, mais mette la pression sur le gouvernement iranien pour qu'il accepte, ce qui est quasiment inacceptable, même... Je pense que même pour n'importe quel gouvernement iranien, ce serait inacceptable. Donc, c'est pas que la République islamique d'Iran, c'est une atteinte à la souveraineté de l'Iran.
Et de l'Europe aussi, d'ailleurs. Alors, pas seulement de l'Iran.
Vous me posez la question. Je pense que ça va pas arriver. Par contre, il est clair, quand on met dans n'importe quel pays, ça me fait rire quand on dit oui, en Iran, il y a des problèmes. Imaginez, en France, on perdrait 20 à 40% de nos recettes budgétaires. Regardez les problèmes qu'il y a actuellement. Donc, il va y avoir des troubles sociaux en Iran. Mais si vous voulez, je trouve intéressant, c'est que la population ne veut pas ça. Je veux dire, on les force, et c'est quand même, et c'est là aussi, il y a un côté quand même complètement scandaleux. La population n'est pas contente dans sa majorité, il y a des problèmes, ils veulent un changement pacifique en allant voter. Donc là, ce que le gouvernement américain est en train de faire, c'est de leur créer une situation invivable pour les forcer à sortir dans la rue, à aller affronter les forces de répression qui existent en Iran, pour les forcer à mettre la pression sur le gouvernement iranien, même en tant qu'Européen, comme disait Azadeh, moi je pense que c'est absolument inacceptable. Donc, moi je pense que ça va pas arriver, il y aura des troubles en Iran, hein, c'est clair, parce qu'il y aura des crises sociales, ça existe déjà. Je voyais, il y a une grève actuellement, je crois, des instituteurs. Donc, il y a beaucoup de problèmes chez les retraités. Mais je dis ce que je trouve intéressant. Moi, je vois absolument pas, mais faut rester prudent, absolument pas la stratégie américaine arriver, c'est-à-dire des manifestations gigantesques en Iran qui conduiraient à des affrontements et qui gagneraient. Si vous voulez, les gens savent tout ça. Les gens ne veulent pas que l'Iran devienne comme la Syrie, que devienne comme l'Irak. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y aura sans doute des troubles sociaux, c'est évident. Par contre, de nouveau, je pense qu'on arrivera... Il y a très peu de chances qu'on arrive à ce que veulent les Américains.
Vous partagez, Zadekian, ce que vient de dire Thierry Coville?
En grande partie, de toute façon, ce que j'en constate, c'est que le gouvernement iranien, contrairement au décembre 2017, janvier 2018, a prévu des subventions pour les classes populaires, pour les familles à faible moyen, sous forme de produits de première nécessité. En particulier, on parle du riz, on parle même du poulet, c'est-à-dire de la viande, hein, dans le panier de ces familles, tout ça afin, effectivement, d'essayer d'éviter justement des troubles sociaux, d'une part. D'autre part, je partage ce constat de Thierry pour dire que les Iraniens, il ne faut jamais oublier quand même l'élément nationaliste, hein, chez la majorité des Iraniens. L'Iran actuel, c'est un pays qui a toujours existé. Je le répète à chaque fois, mais il faut le dire. L'Iran n'est pas l'Irak. L'Iran n'a pas été constitué et construit par les puissances colonialistes. Qui reste de l'Iran était là déjà depuis des millénaires. Donc il y a ce sentiment d'appartenance à cette terre et donc patriotisme ou, si vous voulez, nationalisme qui est largement partagé, y compris d'ailleurs, je le constate, chez les Iraniens qui applaudissent Trump, mais en même temps qui disent non, il faut pas que l'Iran soit divisé, il faut pas que l'Iran devienne Syrie, l'Irak, etc. Bah alors, et comment? Et alors ils vous diront, moi j'aimerais bien que ce régime soit renversé, mais on n'a pas d'alternative, donc pour le moment j'irai pas manifester. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce double discours de cette volonté de voir effectivement un changement conséquent d'un régime qui est effectivement répressif, effectivement corrompu et qui n'a pas réussi à réellement, par exemple, accélérer l'amélioration de la condition économique, puisque les dépens entiers de l'économie, il faut le dire, sont aux mains des structures monopolistiques. Et donc, ce sont ces structures-là qui ont profité déjà des sanctions précédentes, hein, pendant presque 10 ans, et ont aussi accéléré leur intervention régionale en Syrie, en Irak, au Liban, et qui seront, à mon sens, aussi les bénéficiaires de ces sanctions états-uniennes. Et donc, on voit voit justement aussi avec ce que New York Times d'ailleurs a révélé, c'est-à-dire les plans des Saoudiens pour tuer Qassem Soleimani, le chef de l'armée Al-Quds, qui lui est la personne qui décide réellement des interventions iraniennes dans la région. Une montée en puissance, je pense, des gardiens de la révolution, notamment la branche extérieure, au détriment du gouvernement Rouhani, qui effectivement face à des sanctions américaines, et étant donné que Rouhani a fait beaucoup confiance à l'Europe et aux États-Unis et est totalement aujourd'hui dépourvu de pouvoir, effectivement, ça alimente aussi la fragilisation ou davantage de fragilisation du gouvernement Rouhani. Et par là également, il ne faut pas oublier quand même, ces sanctions américaines visent la société iranienne et visent la société civile iranienne, parce que on a vu et on voit déjà en dehors des sanctions américaines, il y a un mouvement social en Iran. Il y a des camionneurs, il y a des instituteurs, des ouvriers, des pantiers, donc des forces vives de ce pays qui protestaient à leur façon. Bien évidemment, il ne s'agissait pas de renverser le régime, il s'agissait d'obtenir leurs droits. On voit des femmes qui protestaient, etc. Aujourd'hui, face à des sanctions, la société civile iranienne est neutralisée. C'est ça le fait. C'est-à-dire que ces sanctions non seulement visent économiquement la société, mais visent également les actions constructives de la société civile iranienne vers une démocratisation, soit de ce régime, soit d'un changement graduel, mais vers la démocratie. Donc ces sanctions sont pour fragiliser la société, encore une fois, et je ne vois pas autrement, et fragiliser aussi des factions modérées du gouvernement, afin de préparer peut-être un affrontement, je ne sais pas, mais ça, Monsieur Nicolo nous le dira, affrontement beaucoup plus peut-être physique entre l'Iran et les États-Unis, peut-être, les scénarios que pour le moment n'est pas envisageable, mais pourquoi pas, il y a des navires américains dans le Golfe Persique, et il y a aussi des bateaux et des navires des gardiens de la Révolution, pas loin, voilà. Donc les accidents sont susceptibles d'arriver à tout moment aussi.
Alors, affrontement Iran-États-Unis, François Nicolo. Avant cela, ce qu'on voit, c'est un président Rouhani très fragilisé, Azadeh Kian le disait. Est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout de son mandat? Et 2019, qui est à notre porte, marquera le 40e anniversaire de l'installation du régime des ayatollahs à Téhéran.
Oui, alors ça, c'est vraiment une bonne question. Est-ce que Rouhani va aller jusqu'au bout de son mandat, donc le président de la République actuelle? Moi, je prends le pari que oui, parce que le fonctionnement de la République islamique vise quand même à l'application régulière des textes. C'est intéressant, par exemple, de voir que son prédécesseur, Ahmadinejad, était complètement discrédité au cours de son deuxième mandat, mais finalement, le régime a décidé de jouer l'application de la Constitution et d'aller jusqu'au bout. En fait, bon, il est fragilisé, c'est certain, mais il y a quand même aussi un autre phénomène auquel il faut faire attention, c'est que les sanctions de Trump ont apporté en fait sur un plateau deux cadeaux à la République islamique. Le premier cadeau, c'est qu'elles ont introduit un coin entre les Américains et les Européens. Cette fois-ci, les Européens sont pas du côté des Américains, comme on l'a bien vu. Ils sont contre ces sanctions, alors que dans la période précédente, la dernière grande vague de sanctions, il y avait une unité complète entre l'Europe et les États-Unis. Et moi, je l'ai bien vu, le rêve vraiment des Iraniens, de la République islamique, ça a toujours été de séparer les États-Unis de l'Europe, d'arriver à introduire un coin entre les deux, et ça paraissait un rêve totalement impossible. Parce que dans les moments sérieux, quand les choses devenaient vraiment sérieuses, il y avait quand même unité entre les deux. Là, maintenant, tout à coup, ça, c'est un cadeau absolument extraordinaire. C'était jamais arrivé. Et je crois que pour eux, c'est quand même tout à fait intéressant. Ça, c'est vraiment une donnée tout à fait nouvelle. Et un deuxième cadeau, effectivement, que Trump apporte aux Iraniens, c'est que tout le monde tire à hue et à dia en Iran. Rouhani est extrêmement critiqué, mais quand même, les sanctions créent un phénomène de regroupement, de serrer les rangs, quoi. Le rally around the flag. On se resserre autour du drapeau. Il y a quand même ce phénomène. Rouhani a été complimenté par un certain nombre d'ultra-conservateurs. Voilà. Ça compte énormément.
On poursuivra, François Nicolo, et même on redémarrera la deuxième partie de l'émission sur ce deuxième cadeau fait par Trump finalement aux Iraniens avec ce resserrement des rangs géopolitiques. Nous retrouvons nos invités François Nicolo, Azadeh Kian et Thierry Coville.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Iran, deux semaines après l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions visant le régime de Téhéran décidé par les États-Unis. Nous retrouvons nos invités Azad Ekian, professeur de sociologie politique à l'Université Paris Diderot, Paris 7 et chercheur au CNRS. François Nicoulot, ancien ambassadeur de France à Téhéran, analyste de politique internationale et auteur du blog à contre-courant. Et Thierry Coville, chercheur à l'IRIS. François Nicoulot, nous avons terminé la première partie de l'émission avec ces deux cadeaux que vous évoquiez de Donald Trump aux Iraniens. Le premier, on y reviendra, c'est ce coin glissé entre les Américains et les Européens qui avaient jusqu'à présent une politique très, très unie sur l'attitude à avoir vis-à-vis de Téhéran. Ça n'est plus le cas, on y reviendra. Et ce deuxième cadeau, ce phénomène qui est un resserrement des rangs en Iran.
Oui, en effet, parce que il faut bien voir, la société iranienne est quand même très éclatée. En fait, les Iraniens, pour faire simple, sont un peu des anarchistes. Hein. Ils n'arrivent pas à s'organiser. Anarchistes peut-être un peu de droite, enfin, je ne sais pas comment dire, repliés un peu sur eux-mêmes. En tous les cas, ce qui est quand même notable, c'est que, par exemple, jamais un grand parti populaire n'est arrivé à se créer en Iran. Les partis qui existent, ce sont des petites factions, ce sont des clubs, disons, autour de telle ou telle personnalité.
Mais on a quand même le nombre le plus important de mouvements sociaux et de révolution. Hein.
Ah
il
ne
faut pas oublier depuis 1906.
Ah oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a du mécontentement qui s'exprime, mais qui n'est pas organisé. On l'a vu tout à fait à la fin de l'année dernière et au début de cette année. Il y a eu des mouvements populaires dans tout le pays, hein, mais qui étaient spontanés et qui n'avaient aucun chef. Et ça, on l'avait même vu en 2009, finalement, quand il y a eu le grand soulèvement contre le vote truqué autour de la seconde élection d'Ahmadinejad. Il y a quand même des millions de gens dans la rue. S'ils avaient été tant soit peu organisés, s'il y avait eu quelques leaders qui leur avaient dit « on marche vers la radio, on marche vers le ministère de la Défense », le régime était renversé. Personne n'en a eu l'idée. Même la révolution qui a conduit à l'apparition de la République islamique, elle a commencé dans une pagaille généralisée. Il n'y a en fait en Iran qu'un seul élément structurant de la société, c'était le clergé. C'est grâce à cela que la révolution a pu avoir lieu. C'est le clergé qui a repris les choses en main. Et aujourd'hui encore, ce qu'il y a de structuré, c'est une minorité. Hein. Disons 80% de la population en a marre de ce régime, au moins. Mais il y a 10 ou 15% de la population qui est résolue, qui fait bloc au cours du régime. Il y a les religieux, il y a les fameux pasdaran, donc cette armée d'élite qui est un peu la garde prétorienne du régime. Et ces gens-là sont prêts à tout faire pour survivre. C'est quand même un régime assez féroce, hein, il faut quand même le rappeler, et qui n'hésitera pas, pour surmonter cette crise, à utiliser tous les moyens à sa disposition.
Thierry Coville, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Oui, mais je suis d'accord avec le côté individualiste forcené des Iraniens, mais je trouve très intéressant d'un certain côté, c'est qu'on a vraiment une Azadeh, c'est mieux que moi, une phase de modernisation des mentalités en Iran. Donc ces gens qui ne font pas confiance aux institutions, ils sont à la recherche d'institutions modernes, ils sont à la recherche d'un état de droit, ils veulent la démocratie. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire justement on en revient au côté scandaleux de ce qui se passe, c'est que ces gens-là, à la limite, ils sont pour le changement, je vous dis, ils veulent l'état de droit et la démocratie, mais ce qui est très intéressant dans leur mentalité, c'est que 80% de la population, ils disent on veut le changement, mais de manière pacifique. On veut le changement en allant voter, on veut le changement en créant des associations culturelles qui défendent les droits des ethnies minoritaires, etc. Donc si vous voulez, il y a quand même une formidable modernisation des mentalités. On en revient, le côté complètement contre-productif, et je veux dire sur le plan éthique, à mon avis, inacceptable, des Américains qui disent bah non, mais on va forcer cette population à sortir dans la rue et qu'on puisse atteindre nos objectifs. Donc ça pose un vrai problème sur qu'est-ce qu'on propose ? Quand même une question importante. Qu'est-ce que le reste du monde propose à cette société civile ? Je pense que c'est une des raisons qui devrait faire que l'Europe doit absolument contrecarrer cette politique américaine.
Alors, l'Europe, on y vient. Vous l'évoquez, François Nicoulot, ce coin entre les Américains et les Européens. Les Européens qui sont d'abord opposés à cette nouvelle vague de sanctions, qui déplorent bien évidemment le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, l'accord de 2015. Azadekian, on voit les Européens tenter d'imaginer des solutions pour contourner les sanctions américaines. On parle d'une bourse d'échange que l'Union européenne veut créer pour aider l'Iran donc à contourner les sanctions. Les choses restent assez floues. On parle de la mise en place d'un ce qu'on appelle un véhicule spécial pour permettre à Téhéran de continuer à vendre du pétrole malgré les sanctions rétablies par Washington donc début novembre. C'était le 5 novembre dernier.
Oui, tout à fait. Ces mesures, pour le moment, ne sont pas adéquates pour faire face à l'ampleur des sanctions envisagées par les États-Unis. Et d'ailleurs, on constate qu'en contrepartie, effectivement, pour le moment, les grandes entreprises françaises sont parties, ne reviendront pas. En revanche, les petites moyennes entreprises qui n'investissent pas des sommes astronomiques sont susceptibles de rester, voire d'y aller encore. Il y a la Banque d'investissement européen qui prévoit aussi la possibilité de transactions bancaires. En revanche, ça va pas être suffisant pour créer des emplois en Iran ou pour améliorer la situation économique du pays. À cela s'ajoute le fait que, à ma connaissance, les Européens, quand même, pour aller à l'encontre de ces sanctions américaines ont aussi posé un certain nombre de conditions, à commencer par le vote par les instances du régime contre le blanchiment d'argent, qui est un phénomène absolument important et qui impacte l'économie iranienne, et de sorte que même Monsieur Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, a parlé de ce fléau de blanchiment d'argent en Iran. Il a été très très attaqué par des ultra-conservateurs, c'est-à-dire ceux qui soutiennent justement ces structures monopolistiques et qui sont très actifs dans le blanchiment d'argent. Et donc, pour vous dire que ces sanctions, d'une part, mais d'autre part, aussi les exigences de l'Europe, ont davantage divisé la classe politique iranienne, bien sûr, entre les modérés du gouvernement Rouhani qui constate qu'il faut absolument, pour empêcher l'effondrement de l'économie, répondre positivement aux exigences de l'Europe, et les ultras qui pensent que ils sont dans un bras de fer, tant avec les États-Unis qu'avec l'Europe, qu'ils ont la Russie, ils ont la Chine, donc c'est pas la peine d'écouter l'Europe non plus, et que de toute façon, ils n'accepteraient pas de se retirer du site syrien ou irakien. D'ailleurs, en ce qui concerne l'Irak, j'attire votre attention sur le fait que le volume des échanges et surtout des exportations iraniennes vers l'Irak n'a cessé d'augmenter et que l'Iran était le pays phare récemment dans le forum économique qui a eu lieu à Bagdad, au détriment de l'Arabie Saoudite. Il y a la Turquie, les pays voisins de l'Iran et l'Inde qui vont continuer, comme ils l'ont fait d'ailleurs pendant les années 2010 jusqu'en 2015, d'acheter les produits iraniens, d'acheter le pétrole iranien, mais au lieu de payer en dollars, ils payent en roupies ou ils payent en lire turque, etc., c'est-à-dire leur propre monnaie. Donc, du fait de cette situation géopolitique, les ultra-conservateurs disent, nous, on peut continuer à faire face à ces sanctions américaines, on n'a pas besoin d'écouter l'Europe, alors que les modérés disent, si, parce qu'on a besoin d'avoir aussi, d'étendre nos relations diplomatiques et aussi économico-financières avec l'Europe. Je ne vois pas que l'establishment iranien soit devenu homogène. Au contraire, ces sanctions et les pressions de l'Europe ont fait qu'il y a de plus en plus de divisions. Maintenant, si l'Europe, après avoir contribué à cet état de fait, ne joue pas son rôle, c'est-à-dire ne soutienne pas une partie de l'économie, une fois que les lois sur le blanchiment d'argent ou subvention de terrorisme seront votées, puisque le Parlement iranien a voté ces lois, c'est le Conseil de surveillance aux mains des ultra-conservateurs proches du guide qui n'a pas donné son aval pour le moment et les négociations sont en cours. Si ces lois sont votées mais que l'Europe ne joue pas son rôle, à ce moment-là, bien évidemment, ça sera au détriment des modérés et au profit des ultra-conservateurs. Ce que demandent les Iraniens, c'est le changement pacifique, mais ils seront peut-être aussi poussés à autre chose si l'Europe ne contribue pas à éviter cette situation de, disons, de, entre guillemets, radicalisation.
En tout cas, c'est tout à fait intéressant. C'est vrai qu'on n'était pas au courant de ces divisions au sein des institutions iraniennes et de la, concernant cette volonté européenne de contourner les sanctions américaines. Finalement, c'est pas aussi important qu'on pouvait l'imaginer, Thierry Queville.
Oui et non, mais il y a eu un scénario du Centre de recherche du Parlement qui dit, je veux dire, le scénario mauvais, où l'Iran perd 25% de ses exportations, c'est l'Europe joue le jeu, donc l'Europe continue à acheter le pétrole iranien. Le scénario catastrophe, c'est l'Europe qui arrête d'acheter du pétrole iranien. Donc là, l'Iran diminue par deux ses exportations de pétrole. Si vous voulez, si la situation économique devient catastrophique en Iran, l'inflation arrive à 40%, même 60-70% pour certains produits. Donc on pourrait avoir des réactions violentes de la part du système politique. Donc l'Europe a un rôle à jouer. Et je pense que quand on discute, disons les choses clairement, quand on discute actuellement avec des responsables, enfin on entend des choses, des responsables politiques, etc. en France, puis en Europe c'est un peu le cas. Bon, l'Europe a mis en place ce système de SPV, Special, qui vise à faciliter les financements du commerce entre l'Europe et l'Iran. Mais l'Europe veut pas faire grand chose de plus. Donc ce qui va se passer, c'est que justement, on revient à la question, personne ne veut acheter le pétrole iranien. Donc on met en place, à limite presque symboliquement, et encore, on l'a même pas mis en place, hein, alors que les sanctions ont déjà commencé, donc ça pose un problème.
L'exception d'Italie, qui est exemptée de sanctions américaines pour le moment, et qui importe le pétrole iranien beaucoup plus que la France, par exemple, ou d'autres pays européens. Non. Donc l'Italie, la Grèce sont les deux grands importateurs européens du pétrole iranien, qui ne sont pas sanctionnés pour le moment par Trump. Non. Donc l'Iran continue quand même à vendre son pétrole à ces pays européens.
Non, mais ce que je voulais dire, ce qu'on entend, c'est de dire, oui, bon, on fait ce qu'on peut, mais on a l'impression que, notamment la France, parlons de la France ou même l'Allemagne, on veut pas en faire trop non plus parce qu'on veut garder des bonnes relations avec les États-Unis, parce que de toute façon, les Iraniens n'ont aucun intérêt à sortir de l'accord sur le nucléaire. C'est ce qu'on entend. Là, il faut bien comprendre les enjeux. Ce qui est en train de se passer, ça dépasse le cadre de l'Iran. Les Américains ont commencé, avec les sanctions, à sortir la banque centrale iranienne de SWIFT. SWIFT, c'est un système de messagerie mondiale qui concerne toutes les banques dans le monde où elles peuvent faire des transactions utilisées pour des messageries. Donc, ça veut dire qu'un pays décide, comme ça, de sortir un autre pays de ce système de messagerie mondiale. En gros, c'est l'architecture financière mondiale. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Mais demain, ça peut être, je sais pas moi, la Russie. Les Russes avaient très peur des sorties de SWIFT. Donc, qu'est-ce qui justifie ça, premièrement? Deuxième problème, c'est la souveraineté européenne. On va pas paraître trop vulgaire, mais là, les États-Unis ne respectent pas cet accord sur le nucléaire, respecte pas une résolution des Nations Unies, sortent sans raison légitime quand même de cet accord et sont en train de dire aux entreprises françaises et européennes, vous n'avez plus le droit de commercer avec l'Iran. Excusez-moi, où est-ce qu'est la souveraineté européenne? Les États-Unis jouent avec le feu parce que on sait pas ce qui peut se passer en Iran. Imaginez qu'il y a les durs, ils prennent le pouvoir d'une certaine façon ou d'une autre.
Ils ont le pouvoir.
Mais je veux dire, ils ont déjà le pouvoir de manière implicite, mais ils le prennent de manière plus explicite. Je veux dire, le risque qui décide de sortir de l'accord, il est réel. Est-ce qu'on accepte ça? Puis moi, je pense qu'il y a un problème qui est très important, c'est le plan éthique. En termes de politique étrangère, quel symbole on donne pour le 21e siècle? On prend une société civile, on la pousse à la famine, pénurie de médicaments, et on lui dit maintenant, votre seul choix, c'est de sortir dans la rue pour avoir un régime qui mène la politique qu'on veut. Mais franchement, je pense qu'on a, pour revenir à votre question, je pense que c'est ça qui doit pousser l'Europe à réagir et dire que, bon, il y a peut-être un coût à payer. Vous savez, en économie, on parle de coût d'opportunité, c'est-à-dire on dépense l'argent, on aurait aimé le dépenser ailleurs, hein, on aurait aimé faire du commerce avec les États-Unis. Mais là, quand on voit ce qui est en jeu, si on arrive à une situation où l'Iran sort de l'accord, je pense qu'on sera tous perdants. Et l'Europe aura perdu beaucoup de sa crédibilité.
Alors, on a vu récemment le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, dire très clairement qu'il ne voulait pas d'un trade policeman of the world, parlons de Trump, hein, d'un policier commercial qu'il est. Alors, la question, c'est effectivement de savoir de quels moyens la France dispose vraiment pour s'opposer à la politique américaine, et la France pas seulement, mais l'Union européenne. Quelques mots, François Nicolau, aussi sur l'accord. On voit l'Union européenne, la Russie, la Chine s'efforcer de convaincre l'Iran de rester dans cet accord. Comment voyez-vous les choses?
Je suis en effet persuadé que les Iraniens n'ont aucun intérêt, n'ont absolument pas envie de sortir de cet accord. Même si les bénéfices qu'ils peuvent tirer de leur respect des obligations qu'ils ont acceptées restent modestes, parce qu'il sera modeste, hein. Quels que soient les mécanismes que l'Europe met en place, les grandes sociétés, si vous voulez, les Total, les Airbus, tout ça, ne peuvent plus commercer avec l'Iran, parce qu'en fait, ce sont aussi des sociétés américaines, hein. Et donc, ils peuvent absolument pas prendre le risque de se fâcher avec les Américains. Donc, pour les grands projets, les grands investissements dont a besoin l'Iran, ça n'arrivera pas. Hein. Ce qu'on arrivera peut-être à maintenir, c'est un commerce courant. Mais est-ce que ceci devrait amener les Iraniens à sortir de l'accord? Quel intérêt ils ont
à se lancer aujourd'hui dans le, je sais pas, dans l'enrichissement à haut niveau, dans la construction de réacteurs de recherche qui pourraient un jour produire la bombe. Ça veut dire qu'ils entrent dans un cycle de 10-15 ans pour arriver peut-être à avoir la bombe s'ils veulent avoir la bombe, mais ça ne présente vraiment aucun intérêt. Sortir de l'accord pour eux, objectivement, ne présente aucun intérêt. Alors, si les plus durs du régime arrivent à renforcer leur position et imposer une telle ligne, moi je crois qu'ils hésiteront en fait à prendre les responsabilités de premier rang, les plus durs, les Pasdaran, etc. Ils feront pas mieux que le régime actuel. Hein. Même s'ils sortent de l'accord, il faudra quand même régler toutes les questions économiques. Hein. Et ça, ils sont pas plus malins que les gens qui sont aux affaires à l'heure actuelle. Donc, il n'y aura pas de résultat très clair. Non seulement, bon, l'Europe ne parviendra pas effectivement à relancer le commerce à haut niveau, les investissements à haut niveau avec l'Iran. L'Iran, pour son pétrole, il va quand même continuer à en vendre comme il l'avait fait avant. Il va essayer de contourner les sanctions. Il a différents dispositifs pour tricher un petit peu. Bon, il arrivera, grosso modo, on peut se dire, à vendre quand même à peu près la moitié de ce qu'il vend aujourd'hui. C'était déjà la situation en 2010-2015, hein, où l'Iran, avant la montée en puissance des sanctions, a exporté 2 millions de barils par jour. Avec l'entrée en vigueur des sanctions, il a exporté 1 million. Bon, c'était pas parfait, il y avait une crise en Iran, il y avait Ahmadinejad qui n'arrangeait pas les choses, mais l'Iran tenait quand même, il arrivait à tenir. Et donc, on va arriver, et ça je terminerai là-dessus, à une situation où les sanctions ne produisent pas le résultat espéré, c'est-à-dire faire tomber le régime, enfin, qu'ils se mettent à genoux, et se pose la grande question, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la question se posera dans 2, 3, 4, 5 ans. Moi, je fais le pari que Trump sera réélu. Donc, on est parti pour 7, 8 ans de Trump. Et donc, Trump se dira à un moment, ma politique marche pas. Est-ce qu'il faut passer à l'étape suivante? Est-ce qu'il faut passer à la guerre? C'est un peu la question que se posaient les Américains face à Saddam Hussein. Hein. Les sanctions marchaient pas. Donc, on est passé à la guerre pour se débarrasser de Saddam Hussein. Est-ce que Trump ira juste là? Je ne le crois pas, en plus, parce que puis la société américaine, voilà, ne souhaite pas une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Ils n'investiront pas là-dedans. Voilà. Donc, on est dans une situation un peu compliquée où rien ne se résoudra et ceci va encore se prolonger un certain temps.
Azadekian, en guise de conclusion presque.
Écoutez, moi, je veux revenir sur le rôle que l'Europe peut jouer à ce moment très décisif, quand même, de l'histoire contemporaine de l'Iran. C'est d'affaiblir les structures monopolistiques en Iran, essayer aussi de demander encore une fois la promulgation des lois contre le blanchiment d'argent, contre le financement d'un certain nombre de groupes régionaux, parce que la dépend entier de la population iranienne et contre les interventions iraniennes en Syrie, au Liban, voire en Irak ou ailleurs, et de ce fait, effectivement, améliorer ou contribuer, je veux dire, à des investissements dans ce pays, parce que il ne s'agit pas seulement d'un volume d'investissement, il s'agit de dire aux États-Unis, bah il y a l'Europe qui reste aux côtés des populations iraniennes, il y a l'Europe qui va essayer d'équilibrer les rapports de pouvoir entre les États-Unis et l'Iran, et de ce fait, je pense que la France bien sûr n'a pas joué ce rôle, puisque le gouvernement français continue à avoir une politique, comme on le constate, encore très pro saoudienne dans la région. Mais si cette politique est très équilibrée, eh bien c'est ça, c'est-à-dire ce soutien géopolitico-stratégique dont a besoin l'Iran plus que des volumes d'investissement. Je suis persuadée que l'Iran continuera à vendre son pétrole, comme je viens de dire, aux pays voisins, à ceux qui voudront l'acheter à un prix moindre pour survivre. Mais ce qui est important, c'est ce soutien géopolitique de l'Europe pour l'Iran.
Thierry Coville, en une seconde.
Oui, mais l'Europe doit agir pas simplement pour l'intérêt de l'Iran, mais d'abord pour crédibilité de la politique européenne.
Oui. Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Azadekian, professeur de sociologie politique à l'Université Paris-Diderot Paris 7 et chercheur au CNRS. François Nicoulot, ancien ambassadeur de France à Téhéran et analyste de politique internationale, auteur du blog À Contre-Courant. Et Thierry Coville, chercheur à l'IRIS. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, notre regard se portera sur l'Amérique latine, partie du monde où les disparités de revenus sont les plus marquées de la planète, une Amérique latine en proie à un nouveau cycle politique.